arraché à Albert Camus. Le premier homme. Extrait lu par Élodie Bouchèze. Lecture enregistrée en public à l'Espace Cardin à Paris le 7 avril 2018. Une coproduction France Culture Théâtre de la Ville. Réalisation Pascal Deux.
Le premier homme est un roman inachevé et publié à titre posthume en 1994, soit plus de 30 ans après la mort d'Albert Camus dans un accident de voiture le 4 janvier 1960. Le manuscrit a été retrouvé dans une sacoche que l'écrivain avait avec lui lors de l'accident. C'est donc un texte écrit au fil de la plume, sans retravail, d'une écriture rapide et souvent difficile à déchiffrer, parfois sans point ni virgule. Et si Camus a médité longtemps ce qu'il envisageait comme le grand roman de sa maturité, nous ne saurons jamais ce qu'il aurait été une fois achevé. Les 144 feuillets retrouvés racontent l'histoire d'un homme qui, à 40 ans, revient sur son passé pour comprendre d'où il vient et qui il est. En les écrivant, Camus y a ressuscité son enfance pauvre mais heureuse parmi les petits blancs d'Alger. De fait, beaucoup y ont vu un roman à caractère autobiographique. Nous vous proposons d'entendre maintenant le premier chapitre lu par Élodie Bouchèze.
Au-dessus de la carriole, qui roulait sur une route caillouteuse, de gros et épais nuages filaient vers l'est dans le crépuscule. 3 jours auparavant, ils s'étaient gonflés au-dessus de l'Atlantique, avaient attendu le vent d'ouest, puis s'étaient ébranlés, lentement d'abord et de plus en plus vite, avaient survolé les eaux phosphorescentes de l'automne, droit vers le continent, s'étaient effilochés, aux crêtes marocaines reformées en troupeaux sur les hauts plateaux d'Algérie et maintenant, aux approches de la frontière tunisienne, essayaient de gagner la mer tyrrhénienne pour s'y perdre. Après une course de milliers de kilomètres au-dessus de cette sorte d'île immense, défendue par la mer mouvante au nord, et au sud, par les flots figés des sables passant sur ce pays sans nom, à peine plus vite que ne l'avaient fait pendant des millénaires les empires et les peuples, leur élan s'exténuait et certains fondaient déjà en grosses et rares gouttes de pluie qui commençaient de résonner sur la capote de toile au-dessus des 4 voyageurs. La carriole grinçait sur la route, assez bien dessinée mais à peine tassée. De temps en temps, une étincelle fusait sous la jante ferrée ou sous le sabot d'un cheval et un silex venait frapper le bois de la carriole ou s'enfonçait, au contraire, avec un bruit feutré dans la terre molle du fossé. Les 2 petits chevaux avançaient cependant régulièrement, bronchant à peine de loin en loin le poitrail en avant pour tirer la lourde carriole chargée de meubles, rejetant sans trêve la route derrière eux de leurs 2 trots différents. L'un d'eux parfois chassait bruyamment l'air de ses narines et son trot se désorganisait. L'arabe qui conduisait faisait claquer alors sur son dos le plat des rênes usées et bravement, la bête reprenait son rythme. L'homme qui se trouvait sur la banquette avant près du conducteur, un Français d'une 30aine d'années, regardait, le visage fermé, les 2 croupes qui s'agitaient sous lui. De bonne taille, trapu, le visage long, avec un front haut et carré, la mâchoire énergique, les yeux clairs, il portait, malgré la saison qui s'avançait, une veste de coutil à 3 boutons fermée au col, à la mode de cette époque, et une casquette légère sur ses cheveux coupés courts. Au moment où la pluie commença de rouler sur la capote au-dessus d'eux, il se retourna vers l'intérieur de la voiture. « Ça va ?» cria-t-il. Sur une deuxième banquette, coincé entre la première et un amoncellement de vieilles malles et de meubles, une femme, habillée pauvrement mais enveloppée dans un grand châle de grosse laine, lui sourit faiblement. « Oui, oui, » dit-elle, avec un petit geste d'excuse. Elle avait un visage doux et régulier, les cheveux de l'Espagnole bien ondés et noirs, un petit nez droit et un beau et chaud regard marron. Mais quelque chose sur ce visage frappait. Ce n'était pas seulement une sorte de masque que la fatigue ou n'importe quoi de semblable écrivait provisoirement sur ses traits, non. Plutôt un air d'absence et de douce distraction, comme emportent perpétuellement certains innocents, mais qui ici affleurait fugitivement sur la beauté des traits. À la bonté si frappante du regard se mêlait parfois aussi une lueur de crainte irraisonnée, aussitôt éteinte. L'homme se retourna vers l'arabe, placide, sous son turban à cordelette jaune, le corps épaissi par de grosses culottes à fond ample serrées au-dessus du mollet. C'est encore loin ? L'arabe sourit sous ses grandes moustaches blanches. 8 kilomètres et tu arrives. L'homme se retourna, regarda sa femme, sans sourire mais attentivement. Elle n'avait pas détourné son regard de la route. « Donne-moi les rênes, » dit l'homme. « Comme tu veux, » dit l'arabe. Il lui passa les rênes. L'homme l'enjamba, pendant que le vieil arabe se glissait sous lui vers la place qu'il venait de quitter. De 2 coups du plat des rênes, l'homme prit possession des chevaux qui redressèrent leur trot et tirèrent soudain plus droit. « Tu connais les chevaux, » dit l'arabe. La réponse vint, brève et sans que l'homme sourie. « Oui, » dit-il. C'était une nuit de l'automne 1913. Les voyageurs étaient partis 2 heures auparavant de la gare de Beaune, où ils étaient arrivés d'Alger, après une nuit et un jour de voyage sur les dures banquettes de troisième. Ils avaient trouvé à la gare la voiture et l'arabe qui les attendaient pour les mener dans le domaine situé près d'un petit village, à 20 kilomètres dans l'intérieur des terres, et dont l'homme devait prendre la gérance. Il avait fallu du temps pour charger les malles et quelques affaires. Et puis la route mauvaise les avait encore retardés. L'arabe, comme s'il percevait l'inquiétude de son compagnon, lui dit « N'ayez pas peur. Ici, il n'y a pas de bandits. » « Il y en a partout, » dit l'homme. « Mais j'ai ce qu'il faut » et il frappa sur sa poche étroite. « Tu as raison, » dit l'arabe. « Il y a toujours des fous. » À ce moment, la femme appela son mari. « Henri, » dit-elle, « ça fait mal. » L'homme jura et excita un peu plus ses chevaux. « On arrive, » dit-il. Au bout d'un moment, il regarda de nouveau sa femme. « Ça fait encore mal ?» Elle lui sourit avec une étrange distraction et sans paraître cependant souffrir. « Oui, beaucoup. » Il le regardait. Il la regardait avec le même sérieux. Et elle s'excusa de nouveau. « Ce n'est rien, c'est peut-être le train. » Regarde, dit l'arabe, le village. On arrive, dit l'homme dans la direction de sa femme. Elle était pliée en deux, le visage dans ses bras. Lucie, dit l'homme. Elle ne bougeait pas. L'homme la toucha de la main. Elle pleurait, sans bruit. Il cria en détachant les syllabes et en mimant ses paroles. « Tu vas te coucher, j'irai chercher le docteur. » « Oui, va chercher le docteur, je crois que c'est ça. » L'arabe les regardait, étonné. « Elle va avoir un petit enfant, dit l'homme. » « Il y a le docteur au village ?»« Oui, je vais le chercher si tu veux. »« Non. Tu restes à la maison, tu fais attention, moi j'irai plus vite. »« Il a une voiture ou un cheval ?»« Il a une voiture. » Puis l'arabe dit à la femme, « Tu auras un garçon, qu'il soit beau. » La femme lui sourit sans paraître comprendre. Elle n'entend pas. Dit l'homme. À la maison, tu cries fort et tu fais les gestes. La voiture roula, soudain, presque sans bruit. La route, devenue plus étroite, était couverte de tuf. Elle longeait de petits hangars couverts de tuiles derrière lesquels on voyait les premières rangées des champs de vignes. Une forte odeur de moût de raisin venait à leur rencontre. Ils dépassèrent de grands bâtiments aux toits surélevés et les roues écrasèrent le mâche-fer d'une sorte de cour sans arbres. L'arabe, sans parler, prit les rênes pour les tirer. Les chevaux s'arrêtèrent et l'un d'eux s'ébroua. L'arabe désigna de la main une petite maison blanchie à la chaux. Une vigne grimpante courait autour de la petite porte basse dont le pourtour était bleui par le sulfatage. L'homme sauta à terre et sous la pluie, courut vers la maison, il ouvrit. La porte donnait sur une pièce obscure qui sentait l'âtre vide. L'arabe qui suivait marcha droit dans l'obscurité vers la cheminée et grattant un tison vint allumer une lampe à pétrole qui pendait au milieu de la pièce au-dessus d'une table ronde. « Allume le feu !» dit l'homme. Et il retourna à la voiture. La femme attendait, sans rien dire. Il la prit dans ses bras, pour la mettre à terre. Et la gardant un moment contre lui, il lui renversa la tête. « Tu peux marcher ?»« Oui, » dit-elle. Et elle lui caressa le bras de sa main noueuse. Il l'entraîna vers la maison. « Attends, » dit-il. L'arabe avait déjà allumé le feu et le garnissait de sarments de vigne avec des gestes précis et adroits. Elle se tenait près de la table, les mains sur son ventre, et son beau visage renversé vers la lumière de la lampe était maintenant traversé de courtes ondes de douleur. Elle ne semblait remarquer ni l'humidité, ni l'odeur d'abandon et de misère. L'homme s'affairait dans les pièces du haut. L'arabe le rejoignit. Puis on le vit surgir de dos, portant un matelas que l'homme tenait à l'autre bout. Ils le placèrent près de la cheminée. L'homme tira la table dans un coin pendant que l'arabe remontait à l'étage et redescendait bientôt avec un traversin et des couvertures. « Couche-toi là. » dit l'homme à sa femme, et il la conduisit vers le matelas. Il se recouvrit et sortit alors sous la pluie. Le cheval dételé tournait déjà sur lui-même, ses pattes de devant plantées dans le mâche-fer. « Je vais chercher une selle, » dit l'arabe. « Non, laisse-lui les rênes, je le montrerai comme ça. Rentre les mâles et les affaires dans la cuisine. Tu as une femme ?» « Elle est morte. Elle était vieille. Tu as une fille ?»« Non, grâce à Dieu, mais j'ai la femme de mon fils. Dis-lui de venir. Je le ferai. Va en paix. » L'homme regarda le vieil arabe, immobile, sous la pluie fine, et qui lui sourit sous ses moustaches mouillées. Lui ne souriait toujours pas, mais il le regardait, de ses yeux clairs et attentifs, puis il lui tendit la main, que l'autre prit à l'arabe, du bout de ses doigts, qu'il porta ensuite à la bouche. L'homme se retourna, en faisant crisser le mâche-fer, marcha vers le cheval, sauta accru sur son dos et s'éloigna d'un trot pesant. Quelques instants après, il abordait le village en passant entre des sortes de remparts de terre sèche. Une rue unique apparemment s'étendait devant lui, longée de petites maisons sans étage, toutes semblables, qu'il suivit jusqu'à une petite place couverte de tufs où s'élevait de façon inattendue un kiosque à musique en armature métallique. La place, comme la rue, était déserte. Cormery marchait déjà vers une des maisons quand le cheval fit un écart. Un arabe surgit de l'ombre dans un burnous sombre et déchiré marchait vers lui. « La maison du docteur ?» demanda immédiatement Cormery. L'autre examina le cavalier. « Viens, » dit-il, après l'avoir examiné. Ils reprirent la rue en sens inverse. Sur l'une des bâtisses, qui comportait un rez-de-chaussée surélevé où l'on accédait par un petit escalier peint à la chaux, on pouvait lire « Liberté, égalité, fraternité. » Un petit jardin, entouré de murs crépis, la jouxtait, au fond duquel se trouvait une maison que l'arabe désigna. « C'est ça, » dit-il. Cormery sauta de cheval et d'un pas qui ne manquait aucune fatigue, il traversa le jardin dont il ne vit au centre exact qu'un palmier nain, aux plantes desséchées et aux troncs pourris. Il frappa à la porte, personne ne répondit. Il se retourna, l'arabe attendait, silencieux. L'homme frappa de nouveau. Un pas se fit entendre de l'autre côté et s'arrêta derrière la porte, mais celle-ci ne s'ouvrit pas. Cormery frappa encore et dit « Je cherche le docteur ». Aussitôt, des verrous furent tirés et la porte s'ouvrit. Un homme parut, au visage jeune et poupin, mais aux cheveux presque blancs, de haute et forte taille, les jambes serrées dans des leggings et qui enfilait une sorte de veste de chasse. « Tiens, d'où sortez-vous ? » dit-il en souriant, « je ne vous ai jamais vu. » L'homme s'expliqua, « Ah oui, le maire m'a prévenu. » « Mais dites-moi, c'est un drôle de bled pour venir accoucher. » L'autre dit qu'il attendait la chose pour plus tard et qu'il avait dû se tromper. « Bon, ça arrive à tout le monde, allez-y, je sais le matador et je vous suis. » À mi-chemin du retour, sous la pluie, qui recommençait de tomber, le docteur, monté sur un cheval gris pommelé, rattrapa Cormery, maintenant tout trempé, mais toujours droit, sur son lourd cheval de ferme. Le docteur le regarda avec curiosité. « Ne craignez rien, dit-il. Tout se passera bien. » Cormery tourna vers le docteur son regard clair, le regarda tranquillement et dit avec une nuance de cordialité « Je n'ai pas peur. J'ai l'habitude des coups durs. C'est votre premier ? Non. » « J'ai laissé un garçon de 4 ans à Alger chez ma belle-mère. » Ils arrivaient au carrefour et prirent la route du domaine. Bientôt, le mâche-fer vola sous les pieds des chevaux. Quand les chevaux stoppèrent et que le silence retomba, on entendit venir de la maison un grand cri. Les deux hommes mirent pied à terre. Une ombre les attendait, abritée sous la vigne des gouttes d'eau. En approchant, ils reconnurent le vieil arabe, encapuchonné dans un sac. « Bonjour, Kadour, » dit le docteur. « Comment ça va ?»« Je ne sais pas. Surtout, je n'entre pas chez les femmes, » dit le vieux. « Bon principe, » dit le docteur. « Surtout quand les femmes crient. » Mais aucun cri ne venait plus de l'intérieur. Le docteur ouvrit et entra, Cormery à sa suite. La patronne de la cantine les regarda et s'exclama joyeusement « Plus besoin de vous, docteur, ça s'est fait tout seul. » Elle se leva et les deux hommes virent près de la malade quelque chose d'informe et de sanglant, animé d'une sorte de mouvement immobile et d'où sortait maintenant un bruit continu semblable à un grincement souterrain presque imperceptible. « On dit ça, » dit le docteur, « j'espère que vous n'avez pas touché au cordon. »« Non, » dit l'autre en riant, « il fallait bien vous laisser quelque chose. » À ce moment-là, la malade redressa la tête et vit son mari. Un merveilleux sourire vint transfigurer le beau visage fatigué. Cormery avança vers le matelas. « Il est venu, » lui dit-elle, dans un souffle. Et elle avança la main vers l'enfant. Le docteur s'affaira sous la couverture. Puis il se redressa et sembla secouer quelque chose devant lui. Un petit cri se fit entendre. « C'est un garçon, » dit le docteur, « et un beau morceau. » Cormery regarda sa femme. Mais son visage était toujours renversé en arrière. Seules les mains détendues sur la couverture grossière rappelaient encore le sourire qui tout à l'heure avait empli et transfiguré la pièce misérable. Tard dans la nuit, Cormery, étendu en caleçon long et tricot de corps, sur un second matelas près de sa femme, regardez les flammes danser au plafond. La pièce était maintenant à peu près rangée. De l'autre côté de sa femme, dans une corbeille à linge, l'enfant reposait sans bruit, sauf parfois de faibles gargouillis. Sa femme dormait aussi, le visage tourné vers lui, la bouche un peu ouverte. La pluie s'était arrêtée. Le lendemain, il faudrait se remettre au travail. Près de lui, la main déjà usée, presque ligneuse, de sa femme, lui parlait aussi de ce travail. Il avança la sienne, la posa doucement sur celle de la malade, et se renversant en arrière, ferma les yeux.
C'était « Pages arrachées » à Albert Camus, un extrait du premier homme, lu par Élodie Bouchez. Une lecture enregistrée en public à l'Espace Cardin à Paris le 7 avril 2018. Coproduction France Culture, Théâtre de la Ville. Musique composée et interprétée par Mahu. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Christophe Michou, Sébastien Royer. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Pascal Deux. Le premier homme est publié aux éditions Gallimard, collection Folio.